Assez partagé quand même sur la cuillerée de Nutella. Il y en a qui vont plutôt avec le beurre de peanut.
C'est vrai que c'est bon aussi le beurre de peanut. Je le fais des fois.
Un n'empêche pas l'autre.
Moi, je suis un fan de beurre de peanut. Puis j'aime mieux, je sais pas, il y a quelque chose avec la cuillerée de beurre de peanut qui me gosse. Fait que ce que je fais, j'en mets juste plus sur ma toast.
Oui!
Je beurre pas mal épais. Je sais pas si tout ça est recommandé par les médecins.
Je sais pas. Tu lèches-tu le couteau de beurre de peanut quand t'en mets beaucoup sur la toast? Une bonne léchée de couteau après.
Recommandé par notre médecin ou non, la cuillerée de Nutella ou de beurre de peanut, Ben ça donne bien, on a le docteur Pascal Renault avec nous en studio, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Docteur Renault, comment ça va?
Ça va bien, merci. Puis pour répondre à votre question, ben moi, le Nutella, je le mélange pas avec le beurre de peanut, là, je le mange tout seul.
OK, une cuillerée de Nutella, c'est pas si pire, Pascal, tu sais?
Ben, tout est dans l'excès, hein? S'il n'y a pas d'excès, on est correct. Donc, peut-être que si vous la mettez trop épais puis vous lichez le couteau en plus, je peux pas vous le dire, là. Peut-être faire une glycémie après, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème.
La modération est bien meilleure. Hein? C'est ce qu'on dit. Pascal, ça dérange pas qu'on se tutoie, là? On se parle assez souvent.
Moi, je m'amuse souvent en disant que Dr. Renault, c'est ma sœur, moi, c'est Pascal. Donc, okay, c'est bien correct pour ça.
Parfait.
Ta sœur est médecin?
Oui, ma sœur est médecin de famille aussi, sur la rive sud.
OK. Wow. On la salue, certain. Quelques sujets quand même bien intéressants. Commençons avec une mise à jour. Tu voulais, la dernière fois qu'on s'est jasé, je pense que moi, j'étais en vacances, tu as jasé avec Jeff. Il y a un auditeur qui avait dit, je vous laisse mettre en contexte la situation.
En fait, je peux le présenter, ça va être assez rapide. Là. On avait parlé des délais pour que le CIUS et le GAP rappellent les patients. L'information que j'avais eue, c'était que tout se faisait en dedans de 24 heures. Puis un de vos auditeurs, par texto, nous a dit « c'est pas vrai, ça a pris 4 jours dans mon cas ». Donc, je vous avais dit que je vérifierais cette information-là parce que je veux pas arriver ici vous dire des mensonges. Puis moi, je travaille pas pour le CIUS. C'est pas moi qui donne ces rendez-vous-là, qui fait ces rappels-là. Nous, comme médecins de famille, on offre les rendez-vous puis on livre la marchandise de ce côté-là. Mm-hmm. Puis après vérification avec l'équipe là, du CIUS, effectivement, ça peut prendre pour les cas qui sont classés non urgents là, par les gens du GAP jusqu'à 4 jours pour avoir les appels. Tous les appels sont faits, comme on m'a dit. Par contre, le délai que je vous avais dit n'était pas le bon. Donc, je voulais vraiment remettre ça là, pour montrer, un, que j'ai fait mon travail, puis j'ai validé, puis que votre auditeur avait raison, puis je m'excuse là, s'il l'a mal pris.
Non, mais merci de le faire. C'est bien apprécié.
Vraiment. Puis c'est pour les cas non urgents. Les cas urgents sont traités dans 24 heures.
Effectivement.
Cool.
Pascal, comment on réagit? OK, là, on va sauter direct dedans là, les commentaires de certains de nos politiciens. Comment on réagit comme médecin quand on laisse sous-entendre, ou même on sous-entend pas, on est assez clair que nos médecins ici au Québec sont paresseux, comme pourraient le sous-entendre François Legault et Christian Dubé. Comment on réagit à ça? Bien,
une grande déception. C'est sûr qu'on est dans une partie où on veut valoriser la médecine familiale. Les gens du ministère s'entendent avec nous aussi que la médecine familiale doit être valorisée si on veut avoir plus de médecins de famille. Puis on a besoin de plus de médecins de famille pour prendre en charge toute la population parce que, je vous l'ai répété souvent, mais actuellement, on n'est pas capable d'offrir à tout le monde l'accès qu'il mérite en payant ses impôts puis en étant citoyen là, du Québec. Donc, pour nous autres, ce genre de commentaires-là dénigrants, c'est sûr que ça pousse, les étudiants à ne pas choisir la médecine familiale. Ça pousse aussi les jeunes médecins à aller directement au privé plutôt que venir faire le système public, puis les plus vieux médecins à prendre leur retraite. Au cours de l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une de nos premières interventions ensemble, je vous avais dit, c'est triste parce qu'on a 48 médecins de famille de moins que l'année précédente.
Ouais.
Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que dans les deux dernières années, c'est plus 48, c'est 65 médecins de moins qui travaillent.
On s'en va pas dans la bonne direction.
Ici, dans la capitale nationale.
Non, ça, c'est dans la province.
Dans la province, OK.
Dans la capitale nationale, c'était 16 l'année passée. Puis là, j'ai pas le nombre de
nouveaux chefs
pour cette année, malheureusement.
Mais certainement, ça va pas dans la bonne direction. Tu l'as tellement bien mentionné, quand on dit des mots comme paresseux, quand on dénigre, quand on a des commentaires de la sorte, c'est carrément à l'inverse du défi qu'on a devant nous, la réalité, puis le combat qu'on mène pour justement avoir un meilleur système de santé, puis plus de médecins de famille.
Exactement. Moi, je pense que si le premier ministre mettait l'accent sur les projets qu'on a pour favoriser l'accès, on a présenté le nouveau modèle que je vous ai parlé souvent, auquel je crois là, de façon exponentielle. Là, c'est sûr que si on va dans cette direction-là, on va réussir à améliorer l'accès de façon impressionnante. Malgré ça, il ne va pas dans ce côté-là. Il nous parle qu'on est paresseux. Docteur Amio, qui est le président de la FMOQ, hier, a fait une conférence de presse pour présenter les vrais chiffres. Donc, un médecin de famille, en moyenne, ça travaille 223 jours par année, ce qui est au-delà de ce que la population en général fait, là, qui est 220 jours. Puis nos journées ne sont pas nécessairement de 7 heures, là, sont souvent de 9, 10, 11 heures. Hier, je travaillais à la salle d'urgence. Théoriquement, ce qui était marqué sur l'horaire, c'était de 16 heures à minuit. Mais je suis parti à 1h15 de l'hôpital parce qu'il y avait beaucoup de patients puis il y avait des cas que je devais régler pour pas tout laisser à mes collègues qui rentraient la nuit. Donc, c'est la longueur des journées n'est pas tenue en compte dans tout ce qui est mentionné par le premier ministre. Puis, le nombre réel n'est pas le bon non plus. Le gouvernement se fie à des chiffres qui viennent de l'ISIS, qui est une institut canadienne là, de la statistique en santé. Puis, juste leurs chiffres sont erronés. Pour eux, on a 1380 médecins de famille de plus que ce qu'on a réellement là, dans la province de Québec.
1380.
Donc, c'est sûr que quand ils font leurs statistiques puis leurs chiffres à partir de ça, ben, on paraît mal. Mais nous, on a les vrais chiffres, on a les chiffres du Collège des médecins, c'est ce qui a été présenté hier là, par le docteur Amiot. Mm-hmm. Puis on espère que ça va être la nouvelle référence pour les gens du gouvernement aussi lorsqu'ils veulent nous parler de nos performances. Là.
Qu'est-ce qui explique cet écart-là? C'est-tu parce qu'on embarque des gens qui ont pris leur retraite, mais on les embarque dans l'année?
L'ISIS utilise des chiffres du Collège des médecins, puis ce qu'on pense, c'est qu'ils utilisent aussi les médecins de famille non actifs, parce qu'on peut rester membre non actif au Collège des médecins.
Puis là, bien évidemment, ça vient diminuer le taux de productivité.
Si on a 1300 médecins qui sont non actifs, mais qui veulent garder leur titre de médecin, bien à ce moment-là, il faut continuer à payer une cotisation au Collège des médecins. Donc, on pense qu'en partie, ça explique ce chiffre erroné-là de l'ISIS. Puis après ça, toutes les recherches sont basées là-dessus. Par contre, l'ISIS a une collaboration avec la Fédération. On essaie de leur montrer les chiffres que nous, on a, partagé ça pour améliorer les prochaines études qui seront faites là-dessus, puis ce qu'ils vont afficher aussi comme données.
Pascal, ça sert à quoi de pitcher les médecins en dessous de l'autobus? Excuse-moi cette question-là puis l'expression, mais ça sert à quoi de pitcher les médecins en dessous de l'autobus comme ça?
Bien, le premier ministre actuellement vit une crise là, dans son parti, au niveau de la population. Je pense que de casser du sucre sur le dos des médecins, pour lui, il pense que politiquement, il va gagner des votes supplémentaires. Je vois pas d'autre chose. Mm-hmm. Mais au bout de la ligne, si c'est fait au détriment de l'accès aux patients, je pense que c'est une très mauvaise stratégie qu'il prend.
Je me posais la question parce que tu dis j'ai travaillé à l'urgence hier, puis quand on se parle, tu me dis ah oui, j'étais à l'urgence ce soir, tu le quittes. Comment ça fonctionne? Parce que tu es médecin de famille, mais tu travailles aussi à l'urgence. Donc, est-ce que tu sépares ça 50-50? C'est-tu de l'additionnel l'urgence? Je me pose cette question-là.
Moi, je ne travaille qu'à l'urgence.
Okay.
J'ai aucun patient que je prends en charge, que je suis de façon continuelle dans le temps. Donc, pour le premier ministre Legault, moi, je suis un médecin lâche, là, parce que je ne suis aucun patient.
Ouais. OK. Donc, tu tombes dans cette catégorie-là.
Exactement. Je pense qu'il ne comprend pas que la médecine familiale a plusieurs branches. La majorité des salles d'urgence, c'est des médecins de famille comme moi qui travaillent là.
Okay.
Il y a environ 150 médecins spécialistes en médecine d'urgence, mais nous, on est 2500 omnipraticiens qui travaillent dans les salles d'urgence. L'hospitalisation, moins dans les centres universitaires, mais partout ailleurs dans la province, c'est des médecins de famille qui font ça. Des accouchements, il y a une grande partie des accouchements normaux qui sont faits par des médecins de famille. En région, c'est pratiquement juste des médecins de famille. Puis souvent, c'est même pas un obstétricien qui vient faire la césarienne s'il y a une problématique. C'est le chirurgien général qui est dans cet hôpital-là qui l'a fait.
Ouais.
Les CHSLD, il y a plus de 1500 médecins de famille qui travaillent en CHSLD. Pas à temps plein, mais qui vont une journée ou deux par s'occuper de ces patients-là. Donc, on est partout. Puis le premier ministre semble penser qu'on est comme dans les autres provinces où 90 % du travail se fait en cabinet, mais pour nous, c'est pas le cas du tout. Là. Puis on a des lois qui obligent les jeunes médecins à avoir une pratique en établissement. Ce qui fait que chez les moins de 30 ans, 54 % des médecins ont une pratique polyvalente où ils font du bureau et de l'établissement. Donc, on a un nombre d'heures limité par semaine, on peut pas être partout en même temps. Puis c'est ça qu'il faut que le premier ministre comprenne.
On a le plaisir d'accueillir ce matin en studio Dr. Pascal Renaud, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Pascal, c'est quoi toute cette idée-là de baser votre rémunération sur les indicateurs de performance, mettons comme la satisfaction du patient? Et est-ce que cette idée-là que tu vas nous expliquer en est une bonne, selon vous, les médecins?
Non, je pense pas. Puis si on veut implanter ça, moi, je dirais au premier ministre, si votre salaire est basé sur la satisfaction des citoyens, je vais être d'accord. Puis d'après moi, il va nous devoir de l'argent pour travailler parce qu'actuellement, c'est pas super populaire, là, la CAQ. Puis le problème que je vois avec ce genre d'indicateur-là, c'est qu'il y a parfois des patients qui viennent parce qu'ils veulent des narcotiques. Okay. Ils viennent nous voir puis qu'ils nous disent « Bon, j'ai telle douleur. » On fait des examens qui ne sont pas concordants avec ce qu'ils nous disent. Mm. Puis parfois, on refuse de donner des narcotiques à ces patients-là. Même chose, des patients qui ont un rhume, qui viennent, qui veulent un antibiotique, c'est pas justifié. Ça peut même être dangereux de leur en donner. Donc ça, c'est des patients qui risquent d'être insatisfaits parce qu'on n'a pas répondu à leur attente. On a répondu du côté médical à la bonne chose à faire. Donc, eux pourraient, du côté satisfaction, nous dire « Ce médecin-là, je lui mets une étoile sur 5.
Ouais. »
Puis ça viendrait toucher la rémunération, ce qui fait pas de sens. Là, parce qu'on a offert le service quand même, puis on a offert le bon service dans ces deux cas-là.
On veut pas donner un mauvais service juste pour avoir un 5 étoiles. Là.
Exactement, ouais. C'est ça.
Est-ce qu'il y aurait quand même des indicateurs ou des mesures de performance à considérer? Comment qu'on fait pour mesurer... que les médecins de famille font un bon travail ou font ce qui est demandé?
Dans l'entente sur l'accessibilité qu'on avait eue, il y avait une rémunération qui était accordée aux gens qui offraient un pourcentage de leur rendez-vous en moins de 72 heures.
Oui, je me souviens, on avait parlé de ça.
Donc ça, c'est facile à calculer. Puis c'est vraiment le médecin qui décide est-ce qu'il offre ou il offre pas ce service-là. Donc, tous ceux qui ont réussi à atteindre la cible d'offrir 72 % de leur rendez-vous, bien, ont eu une majoration de la rémunération pour cette partie-là. Donc, dans ces contextes-là, comme ça, oui, ça peut être bon, mais plus sous forme d'incitatif que de pénalité.
Mm-hmm. Pascal, comment ça se passe? Puis je pense que je connais évidemment la réponse, puis je suis ce qui se passe dans les médias aussi, mais les négociations, comment ça se passe, vos négos?
En fait, on est au tout début là, des négociations. Donc, la Fédération n'a même pas encore déposé son cahier de charges. Okay. Donc, c'est sûr que là, ça va être fait prochainement. Puis, donc, c'est parfois drôle de voir le premier ministre dire « ça va être difficile, les médecins de famille sont exigeants quand on n'a pas encore présenté notre cahier de charges ». Donc, ça me fait, moi, perdre un peu la confiance en la politique quand on voit ces mensonges-là en disant « mais écoutez, laissez-nous au moins
le
présenter ».
Le cahier n'a pas été présenté.
Il n'a pas été présenté, puis le premier ministre le commente déjà, donc c'est particulier.
Ben c'est là que ça peut être mêlant pour le commun des mortels. On exact. Voit les réactions du ministre puis des politiciens, puis là, on apprend que le cahier n'a même pas été présenté.
Ben moi, avec les réactions du premier ministre, j'étais certain qu'il y avait eu des rondes de négociation ouais. déjà, puis qu'il y avait déjà des points qui achoppaient. Fait que tu vois comment c'est prématuré, cette sortie-là. Mmh.
Officiellement, ça commence quand?
Le ministère a... Ben, vous avez vu la sortie de la ministre Lebel mmh. il y a environ deux mmh. semaines. Donc, le ministère a déposé, eux autres, leurs attentes. Puis en négociation, ben, eux dépassent leurs attentes. La Fédération va déposer les leurs là, dans les prochaines semaines. Puis après ça, ça va se négocier pour trouver un terrain d'entente. Mais pour l'instant, il y a juste un dépôt qui a été fait, c'est celui du ministère. Donc, c'est difficile pour les politiciens de critiquer le nôtre qu'ils n'ont pas encore reçu. Là.
Docteur Pascal Renaud, on va prendre en note qu'il y a des textos qui rentrent qui n'étaient pas nécessairement sur le sujet de la discussion de ce matin, mais on va en prendre note pour la prochaine fois peut-être que vous allez passer, puis on va pouvoir vous lancer ces questions-là ou vous poser quelques questions sur différentes situations comme ça, si c'est correct pour toi, Pascal.
Oui, c'est correct. Ça va me faire plaisir. Là, vous me réinvitez quand vous voulez, puis... Ça va me faire plaisir de venir répondre à ces questions de texto-là.
C'est toujours un plaisir. Pascal, merci pour ça. Pascal Renaud est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Et c'est toujours un plaisir, que ce soit au téléphone, encore plus le fun quand tu viens nous voir en personne, en personne, très apprécié.
Moi aussi, je préfère ça en personne. Ouais. Donc, je vais toujours essayer de privilégier ça. Parfois, c'est impossible, mais quand c'est possible, je vais le faire.
T'es merci, gentil. Pascal.
Ben, merci à vous.
À bientôt.
Bye-bye. Rick.